Bonjour, j'ai eu la chance d'être avec vous un moment ce matin où d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié le moment passé avec vous. Et vous verrez qu'au cours de, à la fois de ma présentation et de ce que nous verrons ensemble, eh bien, je reprendrai un ou deux éléments qui m'ont semblé importants ce matin, de façon aussi à pouvoir avoir des articulations entre ce qui se dit dans une orientation particulière, mais effectivement qui n'est pas sans lien avec d'autres orientations. Je vous remercie en tout. Je me demande si je peux m'asseoir un peu ou bien si c'est gênant pour vous. C'est gênant. Est-ce que c'est bon? Alors, je vous remercie de m'accueillir dans le cadre de cette semaine de formation, d'autant plus que cette préoccupation autour de l'école maternelle ou l'école enfantine, comme on l'appelle à Genève, ou pas seulement à Genève, mais en Suisse en tout cas, mais j'y suis particulièrement sensible parce que je pense que nous touchons là à un moment de la scolarité, cette première scolarité particulièrement forte et importante, et aussi bien au niveau de la nouvelle socialisation des jeunes enfants à l'entrée dans une nouvelle culture, cette culture scolaire qu'ils vont apprendre à connaître, à leur éveil à un élargissement du monde, de leur monde, qui vont devenir des mondes, les inciter à développer leur curiosité, leurs intérêts pour des domaines soit qu'ils connaissent peut-être un peu ou bien qui leur sont totalement inconnus. Et je pourrais prendre ce qui va nous intéresser aussi, ça peut être la littérature enfantine, les phénomènes scientifiques, les activités artistiques et toutes ces activités. On l'a dit ce matin, en posant quelques questions à ce sujet-là, toutes vont faire appel au langage. Et il me semble, en tout cas dans le sens et la perspective de l'école nouvelle, comme on l'appelle parfois, et qui me semble toujours d'activité, eh bien, ces intérêts ainsi révélés sont des leviers puissants pour entrer dans des apprentissages tels l'entrée dans l'écrit, la mathématique, les activités diverses, mais si vous voulez, pouvoir créer avec les jeunes enfants ces motivations, ces passions, ces intérêts me semble indispensable pour pouvoir les entraîner dans les apprentissages et leur donner du sens. Alors, je ne veux pas oublier que cette école première est celle où s'opère le passage fort entre la famille et l'école. C'est un lieu d'acculturation et dans une situation hétérogène comme celle que l'on vit dans la plupart des écoles, en tout cas pour celles que je connais dans le canton de Genève, mais en Suisse de façon générale, et je crois que la situation en France est aussi souvent comparable, eh bien, l'importance, effectivement, de considérer, pour tous les enfants d'ailleurs, mais pour certains plus que pour d'autres, cette entrée, et pour les familles aussi, cette entrée dans l'école comme une période d'acculturation, et vraiment l'école maternelle ou l'école enfantine me semble toujours un moment particulièrement propice, justement, à ce qu'on pourrait appeler, non pas dans un sens particulier, comme on l'appelle parfois pour une population étrangère, l'intégration, mais l'intégration sociale des enfants et des familles dans le sens vraiment large du terme. Vraiment ce rôle de cette première scolarité me semble particulièrement forte de ce côté-là. Alors, effectivement, nous allons nous placer cet après-midi dans les contextes scolaires actuels où très souvent, et je pense que vous en avez aussi bien l'expérience que moi, comme je le disais tout à l'heure, l'hétérogénéité scolaire du point de vue social, du point de vue culturel, du point de vue linguistique est la norme. Et la question qui se pose, c'est est-ce important de tenir compte de cette diversité qui, d'une certaine manière, a toujours existé dans les écoles, mais aujourd'hui est souvent plus visible et dont on parle davantage. Alors, nous partons du principe, je pars du principe, mais je ne suis pas seule, et vous, ça m'intéressera aussi de vous entendre à ce sujet-là, du principe que les enfants vont apprendre, vont construire leurs apprentissages, leur nouveau code culturel, l'école est vraiment un lieu de culture par excellence aussi, à partir de ce qu'ils ont déjà construit, hors de l'école, dans leur famille, par exemple. Et un des points sur lesquels je reviendrai à plusieurs reprises, c'est l'importance de la reconnaissance de ces acquis et la reconnaissance des ressources familiales qui auront une influence sur l'investissement des enfants et les rapports avec les familles. Et là, c'est une question, il y a plusieurs chercheurs français aussi qui ont travaillé sur cet aspect-là, justement en mettant en évidence la qualification des familles, alors qu'il arrive encore qu'on, parfois, on soit plutôt dans le déficit familial. Mais toutes les familles ont des ressources et des acquis, et il est important à la fois de pouvoir les reconnaître, de pouvoir, comme les nôtres, les modifier, les élargir, les transformer. Donc, je vous propose de nous retrouver dans ces maternelles où la pluralité linguistique est bien présente. Et je vous propose pour cet après-midi ces quelques points que vous avez vus là. D'abord, une introduction où je reprendrai de façon assez rapide, mais le cadre de ce qu'on pourrait appeler le passage d'une représentation plus monolingue ou monoculturelle de notre système scolaire, qui en Suisse encore l'est souvent fréquemment, à un passage à une représentation plurielle de la société et évidemment alors de l'institution scolaire. Je prendrai ensuite ces questions autour de la biographie, les biographies langagières, le biographique, l'importance effectivement dans ce passage du mono au pluri, de ce que aussi bien les enfants que les adultes se mettent en jeu, et on verra cet intérêt-là qu'il peut y avoir. On prendra ensuite un projet qui maintenant est déjà implanté dans pas mal d'écoles dans différents pays, en France aussi, et que vous connaissez peut-être, qui est l'éveil aux langues ou l'éducation et l'ouverture aux langues à l'école. Et nous verrons un certain nombre d'activités qui nous permettent effectivement de travailler sur ces points à l'école et par là même aussi une entrée dans la langue écrite. Et puis un projet sac d'histoire que nous verrons tout à l'heure. Alors, je veux tout de suite commencer par cette... Un petit instant, évidemment que j'avais pourtant mis mes papiers. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Je vais prendre cette quelques points sur le passage d'une représentation monolingue à une représentation plurilingue. En fait, c'est vrai que nous sommes parfois encore un peu prisonniers, je dirais, de cette notion et de cette idéologie de l'État-nation où un territoire, un peuple, une langue, effectivement, est la norme. Et on se rend bien compte que le temps passant, eh bien, les normes changent, mais souvent, la représentation même que nous pouvons avoir ne se modifie pas, mais je ne vais pas véritablement m'arrêter à cela. Simplement pour vous dire que pendant longtemps, le bilinguisme, par exemple, a été très mal aimé. En fait, le bilinguisme était intéressant pour les personnes, si vous voulez, d'un certain niveau social. Vous pouvez voir, on était très fiers que la cour de Russie parle le français ou qu'en Pologne, on parle le français. Mais en fait, le bilinguisme habituel, ou si vous prenez le bilinguisme breton-français, par exemple, on ne peut pas dire que c'était ce qu'il pouvait y avoir de mieux, pareil, ou d'autres bilinguismes. Mais peu importe, la question qui se posait autour du bilinguisme, c'est cette impossibilité d'être bi, c'est-à-dire d'être loyal à deux États, finalement, puisque la langue était vraiment, faisait partie de cet État-nation. Et vraiment, le bilinguisme, vous avez certainement entendu extrêmement souvent parler de ce bilinguisme, confusion identitaire, confusion cognitive, une forme d'impossibilité de bien parler une langue ou de parler une langue parfaitement. On pourra se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, parler une langue parfaitement? Ou être bilingue, ça ne peut être qu'être bilingue comme si nous étions deux natifs, mais ça ne peut pas, je ne peux pas avoir un bilinguisme, on pourrait dire un bilinguisme d'usage, donc, qui m'est utile, que je peux utiliser, etc. Mais je ne pourrais pas me considérer bilingue si je n'avais pas... en tout cas, l'impression, ou si l'autre ne me renvoie pas l'image, que je connais ces deux langues de la même manière, parfaitement, alors que l'on sait bien que ce bilinguisme-là est assez rare. Donc, nous étions dans cette question-là qui fait que, certes, on apprenait des langues à l'école, mais cet aspect bilingue était plutôt mal vu. Il a fallu attendre les années 60, à peu près, où au Canada, où on était dans ce bilinguisme français-anglais, eh bien, la question s'est souvent posée. Il faut que la population parle ces deux langues. Peut-on être bilingue dans ces deux langues? Et comment peut-on l'être si, en l'étant, finalement, nous allons... ne connaître aucune langue comme il faut, puisque c'était une des idées qui circulait qu'en étant bilingue, on ne connaissait ni une langue ni l'autre. Et alors, il y a eu pas mal de recherches qui se sont faites au Canada sur justement cette question de bilinguisme et d'aspect cognitif, et qui ont mis en évidence que... le bilinguisme dans de bonnes conditions, et on pourra discuter justement de ces conditions, eh bien, cognitivement, était un plus. Parce qu'il permettait une forme de décentration par rapport à une langue. Si vous voulez, il n'y avait pas seulement une langue qui était en quelque sorte un universel, mais il y en avait déjà deux autour desquels on pouvait passer de l'une à l'autre, et cet aspect de mobilité cognitive, eh bien, était aussi important dans le développement de l'intelligence, ou bien, par exemple, Pearl et Lambert ont montré aussi que dans un certain nombre de problèmes que les enfants avaient à résoudre, eh bien, ceux qui connaissaient plusieurs langues cherchaient en fait différemment à résoudre une question parce qu'ils avaient à disposition plusieurs codes, par exemple. Et puis, toute cette question aussi, si vous voulez, entre le signifiant et le signifié, tout d'un coup, vous avez plusieurs possibilités de parler d'un terme, d'un mot, d'une chose, et cela était aussi important. Alors, en fait, Je vais retourner un tout petit peu plus haut quand même. Là, j'aimerais retourner à ce qu'on a redécouvert après, justement, ces différentes recherches qui ont été extrêmement précises au niveau sociologique, de façon à pouvoir dire quelque chose à la fois d'enfants de milieux plus modestes, d'enfants de milieux plus aisés, etc. Là, les recherches de Peul et Lambert ont été les premières vraiment à ce niveau-là, particulièrement sérieuses. Mais nous sommes repartis voir un certain nombre de monographies familiales qui avaient été faites, vous voyez, au début du siècle dernier ou un peu plus tard, et où alors souvent des personnes intéressées par ces questions, on pourrait dire un peu à la manière de Piaget qui a travaillé avec ses enfants, hein, où Ronja, Léopold par exemple, ont regardé le développement de leurs enfants pour justement mettre en évidence s'il y avait des difficultés particulières à cet apprentissage bilingue. Alors, il s'est avéré qu'ils n'ont pas vu d'effet négatif sur ce développement linguistique et cognitif. Parfois, des interférences ou effectivement l'utilisation d'un mot pour l'autre dans le discours courant, parce que vous savez bien que les termes, pour vous tous, je suis persuadée qu'ils connaissaient une ou plusieurs langues, on sait bien que tous les termes n'ont pas pour nous la même force affective, par exemple, et qu'il y a des termes que je peux dire dans une langue, et si je la dis dans une autre, sa force affective sera beaucoup plus forte. Un exemple très banal est celui, par exemple, des jurons. Hein. Vous pouvez jurer dans une langue qui n'a pas, où vous n'êtes pas investi particulièrement affectivement, et puis des choses que vous ne diriez jamais en français. Jamais, parce que ça aurait une autre résonance dans votre simplement dans votre représentation de la langue, de ce que l'on dit ou ce que l'on ne dit pas, par exemple. Enfin, vraiment, dans ces monographies, et il y en a eu de plus récentes, on ne voit rien de particulier sur ce développement linguistique et cognitif. Ce que l'on voit parfois, et ça, c'est une auteure, une chercheuse française, Tabouret Keller, qui est une femme, une Alsacienne, qui a beaucoup travaillé sur les questions de bilinguisme, et qui montre qu'à certains moments, eh bien, on peut avoir l'impression qu'un enfant bilingue ne progresse pas dans son apprentissage du langage parce qu'il est en train de réélaborer ses connaissances. Et que cela n'est pas quelque chose de pérenne, mais on peut voir ça, elle l'a vu chez certains enfants, mais ce n'est pas, si vous voulez, un obstacle au bilinguisme et à l'apprentissage du langage et des langues. Et puis, je vous ai mis là le principe de Gramont, parce que peut-être que vous le connaissez ou vous en entendrez parler. Dans cette même époque de Ronja et Léopold, ce que l'on disait, c'est que pour que les enfants puissent alors devenir de, entre guillemets, bons bilingues, il était nécessaire que les personnes avec qui ils parlaient parlent toujours la même langue. Si le père parlait l'anglais et la mère l'espagnol, eh bien la mère parlait toujours en espagnol, le père en anglais. C'était l'aspect une personne, une langue. Et il est apparu à l'observation des situations langagières que la plupart du temps, les situations langagières sont beaucoup plus complexes. Et que La mère peut bien parler en espagnol à son fils ou à sa fille, mais en même temps, elle va parler anglais avec son mari, par exemple. Donc, les situations ne sont jamais des situations. Les situations langagières sont toujours complexes et on ne peut pas les réduire, ou rarement, aux questions une personne, une langue. Mais cela court, et court parfois encore, et je voulais quand même le faire avec une petite anecdote à ce sujet-là extrêmement suggestive. J'avais un collègue qui parlait italien avec son fils qui avait 3 ans et sa mère lui parlait espagnol, non, lui parlait français. Et puis, il est apparu un jour que... ils étaient à une soirée avec des amis et tout d'un coup, ce fils, Antonin, eh bien, parlait en français avec les femmes et parlait en italien avec les hommes. Il avait décodé que le monde se divisait comme cela. Il est bien entendu qu'au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure, eh bien, il s'est rendu compte qu'on était dans une autre complexité et que les choses se sont remises en place. Je trouve d'ailleurs très intéressant de voir comment les enfants réagissent et l'intelligence à la fois qu'ils peuvent avoir de généralisation et puis l'intelligence aussi de la variation dans une situation donnée. Alors, juste vous voir avec vous deux formes de bilinguisme, le bilinguisme simultané et le bilinguisme successif. Et le bilinguisme simultané, eh bien, c'est très bref, c'est en fait apprendre deux langues en apprenant à parler. Le bilinguisme simultané, on ne l'a qu'une fois. Hein, on apprend à parler une fois et on peut avoir un bilinguisme, un trilinguisme simultané. Ça arrive assez fréquemment. Mais ce qui est vraiment intéressant là, c'est que on est à la fois dans les premiers apprentissages du langage qui se fait dans plusieurs langues. Et puis le bilinguisme successif. Le bilinguisme successif, lui, a ça de particulier, c'est que l'apprentissage de cette nouvelle langue va s'appuyer sur les connaissances que les enfants ont déjà. Et en gros, ça dépend, les recherches ne sont pas strictes là-dessus, on ne peut pas être strict là-dessus, mais on dit qu'en gros, à partir de 4 ans, eh bien, on est dans le bilinguisme successif. Les enfants ont construit, ils vont bien sûr continuer de construire leur langage, mais ils ont construit effectivement les structures principales, ils ont déjà un certain lexique et ils vont le poursuivre. Et ce qu'ils vont faire comme nouvel apprentissage linguistique, ils vont le faire à partir de cela. Voilà, maintenant, depuis pas mal d'années, vous voyez, là j'ai mis Cummins déjà en 79, et qui a poursuivi et qui poursuit encore, eh bien, montre effectivement l'interdépendance entre les langues, qui ne sont pas des îlots clos, séparés. Hein, on pourrait s'amuser, par exemple, aujourd'hui à se dire, dessinons comment on pense qu'une tête de bilingue ou de plurilingue est faite. Où se cachent ces langues? Sont-elles ensemble? Sont-elles séparées? Est-ce la situation qui va faire que la personne va parler une langue ou une autre? Comment sont organisées ces langues? Alors, en tout cas, si l'on prend les questions que pose Cummins. Cette interdépendance entre langues est importante, mais il y a une question, si vous voulez, qui est aussi fort, enfin, dont il faut parler, et c'est le fait que on a tendance quand même à, enfin, ça n'est pas toujours le cas, loin de là, mais c'est vrai que dans l'interdépendance qui peut se faire, on peut voir une langue qui enrichit une autre, par exemple, et ça se passe assez fréquemment, mais c'est vrai aussi que lorsque la langue première n'est pas suffisamment développée, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile que la seconde le soit, ou l'effort est extrêmement important pour que la seconde le soit. Donc, tout cela va nous entraîner à toute une réflexion, et par exemple, en sociolinguistique aujourd'hui en France, on travaille aussi beaucoup sur ces questions de langue première, langue seconde, et sur les liens qu'elles tissent, et sur l'intérêt de la langue première, effectivement, pour, je dirais, être aussi levier pour la langue seconde, comme la langue seconde peut être levier pour la langue première. Mais la question, c'est de ne pas en oublier une. C'est que ces langues sont absolument indispensables, je dirais, à la vie psychique, affective, identitaire de l'enfant. Il est de plusieurs langues, d'une langue commune, qui est celle du lieu où il habite, la langue scolaire, et souvent d'une ou de plusieurs autres langues, de langue familiale, par exemple. Et Cummins, qui est canadien et qui a beaucoup travaillé sur ces questions, est de plus en plus péremptoire, par exemple, comme d'autres, sur l'importance de la langue première. Cette langue, et là, on est à l'école maternelle, cette langue où les enfants sont éduqués, où les enfants sont punis, où les enfants sont choyés, sont aimés, eh bien, toute la qualité affective et cette langue qui permet justement ensuite un développement aussi, un développement cognitif est très important. Je vais, pour cette petite entrée, après je vous donnerai la parole pour les questions que vous auriez. Là, j'ai repris, comme j'étais finalement dans Cummins tout à l'heure, j'ai repris un élément de Cummins qui parle justement, et on y reviendra à plusieurs reprises, d'ailleurs ce matin il en a été question, de différents types de langage. Et là, il en prend deux, ou BICS, je le prends comme ça, où en fait là, nous sommes dans un traitement de la langue différent que dans ce qu'il appelle CALP. Dans le premier, eh bien, la personne, le locuteur, l'enfant a à disposition pour comprendre le contexte, les gestes, les mimiques, et tout cela participe à la compréhension de la langue. Et puis, dans l'autre, le CALP, Cognitive Academic Language Proficiency, eh bien là, nous sommes dans un rapport à la langue différent, une réflexion sur la langue, des habiletés métalinguistiques, la possibilité de réfléchir sur la langue, de comparer des langues, d'être dans une situation, je dirais, plus décontextualisée, même si on est toujours dans certains contextes, mais par rapport quand même à le BICS qui était précédent. Et vous voyez que ce matin, nous avons aussi parlé de cela, hein, de ces différentes formes de langage qui reviennent assez fréquemment. Et d'ailleurs, nous avons parlé aussi de la chercheuse Lapara ce matin, et elle a travaillé aussi en se posant souvent la question de jeunes qu'elle observait ou avec lesquels elle a travaillé, et qui, en fait, au niveau oral, parce qu'ils étaient davantage dans un contexte dont ils pouvaient aussi prendre les indices, qui était très bon à l'oral, et c'est vrai que le passage à l'écrit était un passage plus difficile parce qu'il demandait ses connaissances, enfin, et ses aptitudes de comprendre, je dirais, de façon plus abstraite. Alors, maintenant, il y a une question qui se pose, que je vous pose aussi, entrer dans la langue écrite. Est-ce qu'on peut y entrer dans plusieurs langues ou faut-il y entrer dans une seule langue? Et si, selon les réponses que l'on donne, eh bien, est-ce que ça va, nous allons, quel va être le critère pour entrer dans l'écrit dans une langue ou dans l'autre? Est-ce que le critère, ça va être la situation scolaire? Est-ce que le critère, ça va être la langue où l'enfant a le plus de connaissances orales, puisqu'on sait qu'il y a quand même que ce passage de l'oral à l'écrit, l'oral est souvent important pour le passage à la compréhension de l'écrit. Comment faire autour de cette question? J'en parlerai cet après-midi, mais j'aimerais quand même vous dire que nous sommes là encore dans... nous avons quelques éléments forts, mais nous sommes encore dans un vaste chantier. Et ce chantier, eh bien, je suis très heureuse aussi que dans cette maison, on veuille le mener. Alors, la dernière... je vais prendre... Voilà... entrer dans l'écrit, bilittératie familiale et scolaire. Je reprends cette question parce qu'elle est fondamentale. C'est reconnaître les ressources langagières des enfants. Chaque enfant vient à l'école, qu'il soit, quel qu'il soit, il a sa variante de langue. Hein, il peut parler français, être monolingue en français, mais avoir des... une langue qui n'est pas forcément la langue adaptée à l'école, ou bien il peut parler d'autres langues, il peut être un bilingue simultané s'il en a déjà appris, ou s'il va en apprendre avant 4 ans à peu près, ou bien il peut être un bilingue successif. Et alors, une des questions que je vais voir avec vous dans ce projet Sac d'Histoire aussi, c'est de dire comment on peut offrir, pour répondre à cette question forte de reconnaissance des ressources langagières des enfants et de leur famille, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons offrir comme projet qui permette justement de rendre concret cette reconnaissance. Et puis, ben, le rôle des enseignants dans ces contextes. Vous me direz que ça vient un peu tard, qu'on aurait dû, j'aurais peut-être dû le mettre en numéro 1, mais l'intérêt des rapports que les enseignants ont par rapport aux langues. Parce que ces rapports aux langues disent quelque chose aussi du rapport à l'autre. C'est d'ailleurs très, très intéressant de voir avec les jeunes enfants, quand on leur parle de langue, eux parlent toujours de quelqu'un, d'une personne. Hein, si vous leur dites, est-ce que tu aimes le chinois ou tu connais le chinois? Oui, Lynn le parle. C'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre les personnes et les langues. On ne peut pas... simplement, moi, nous avons une question en Suisse très forte, vous la connaissez sans doute, c'est celle de la Suisse française, francophone, romande. La Suisse romande par rapport au Suisse allemand. Et cette langue, le Suisse allemand, la Suisse romande, généralement, n'a pas beaucoup de sympathie pour cette langue. Et en même temps, on se rend compte que les romans ont beaucoup de difficultés d'apprendre cette langue. On voit bien que les représentations qu'on peut avoir aussi des groupes parlant des langues et l'apprentissage ne sont pas complètement déconnectés. Et puis, nous verrons, je vous proposerai aussi comment travailler ce rapport aux langues. Voilà, j'ai été longue, mais je voulais faire ce petit cadre qui donnait une série d'éléments que je vais reprendre avec vous. Mais si vous le voulez bien, on peut prendre quelques moments de discussion si vous avez des questions, des commentaires, par exemple.
D'interroger l'aspect marqueur social de la langue, c'est-à-dire qu'il y a des langues qui sont plus nobles que d'autres dans l'organisation sociale.
Alors vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison et je devais en parler. Ce qui est très intéressant dans cet aspect-là, c'est qu'on voit que ce marqueur social peut changer. Je prends un exemple. Par exemple, pendant très très longtemps, en Suisse romande, l'espagnol a été une langue complètement déqualifiée. C'était une langue de l'immigration et qui n'avait aucune valeur sociale. Et puis, on peut dire que depuis 10 ans, peut-être 15, eh bien, l'espagnol, si vous voulez, a passé ce cap-là et est devenu une langue internationale. Et donc, et puis ce qui est très intéressant avec les marqueurs sociaux des langues, c'est que quand vous changez de lieu, le marqueur change. Le marqueur est vraiment le fruit du contexte dans lequel vous êtes. C'est très très intéressant. Je prends quelque chose, vous me direz que c'est très très large, mais si je prends l'arabe en France ou l'arabe en Suisse, la représentation n'est pas la même. Parce que nous avons des vies différentes, des éléments différents, nous avons vécu des histoires différentes, il y a beaucoup beaucoup d'éléments là autour, mais si je prends le portugais, qui en Suisse est toujours encore une langue déqualifiée, parce que c'est une langue de l'immigration. Évidemment que si je vais à Lisbonne, le portugais ne sera pas une langue déqualifiée. Je crois que c'est intéressant de voir le mouvement qui peut se passer, mais là où je vous remercie vraiment d'avoir pris cette question-là, parce qu'elle est fondamentale, c'est qu'en fait, tout ce dont j'ai parlé là, si on se trouve dans des bilinguismes, qui sont des bilinguismes, comme j'en ai parlé, par exemple, français-portugais ou français-anglais, la représentation de l'autre qu'il va avoir de ce bilinguisme va être complètement différente. Et cette qualification, par exemple, si je prends anglais-français, ou une déqualification qui peut y avoir autrement, a une importance cardinale sur, justement, toutes les questions cognitives, affectives, dont j'ai parlé tout à l'heure. Véritablement, si vous voulez, quand je disais tout au début que le bilinguisme a vraiment des atouts particuliers quand il se déroule dans de bonnes conditions, eh bien ces bonnes conditions, c'est aussi la représentation sociale qu'on peut avoir des langues qui sont parlées, puisque nous sommes ici à l'école maternelle, par les élèves à l'école maternelle. En fait, est-ce qu'il va y avoir valorisation de toutes les ressources familiales de la même manière? Où est-ce qu'il les ressources langagières, où est-ce qu'il va y avoir des ressources langagières qui vont être plus qualifiées que d'autres ou plus reconnues que d'autres, parce que dans l'échelle En fait, sociale, eh bien, les langues ont aussi ont une échelle extrêmement forte. Là, j'essaierai de voir avec vous justement des activités d'éducation et d'éveil aux langues où, comme matériau didactique, toutes les langues peuvent avoir le même intérêt dans la découverte, dans la curiosité et dans l'apprentissage, parce que ça me semble important. Mais merci, madame, d'avoir repris cette question.
Une question. Oui. Alors, vous avez parlé effectivement que le bilinguisme, la langue va se construire, la langue de l'école va se construire sur la langue, en appui sur la première langue, la langue maternelle, hein, avec tout ce qui peut se dire aussi sur la nécessité que la langue maternelle soit aussi construite. Une question que je me pose depuis très longtemps, donc j'en profite peut-être, elle peut être complètement une aberration, mais je vous la pose quand même. Oui. C'est effectivement, moi je suis d'une région où on n'a pas tant de public d'immigration. Par contre, on a des enfants dits franco-français qui ont un rapport à la langue scolaire. On en parlait par rapport à Annie Ernaux, par exemple, de l'ordre de l'étrangeté. Et des fois, je travaille très proche, puisque dans le même bureau, j'ai des collègues du CASNAV. Et je me demande si des fois, on n'est pas dans des rapports de presque de bilinguisme entre la langue de l'école et la langue de la maison. Et avec la grosse, grosse difficulté pour nous de valoriser la langue de la maison, parce qu'effectivement elle est du côté, alors je vais faire du Bernstein dans le texte, mais du code restreint, ou en tout cas de l'entre-soi, qu'on a beaucoup de mal à valoriser nous à l'école, et du coup effectivement ça entraîne une déqualification des familles, et c'est vrai qu'on, voilà, avec la collègue qui elle est beaucoup plus spécialisée en FLS, on en discute, et c'est vrai qu'il y a une vraie question là pour nos enfants franco-français, d'une étrangeté à la langue qui est peut-être pas du rapport de la langue étrangère au sens de tous les sens anthropologiques du terme, mais et social, mais peut-être très fortement social quand même.
Ouais. Mais j'ai pas de réponse définitive, mais c'est vrai qu'il y a certains chercheurs qui partent du principe que tout le monde est bilingue. Parce qu'on est bilingue selon les variations de langue que l'on connaît dans une langue même. Hein, parce que ces enfants, c'est très clair, ils ont une langue familiale qui est compréhensible dans leur famille, dans leur milieu, et puis ils ont une langue scolaire, et puis peut-être que cette langue familiale a des variantes, peut-être en fonction quand même des gens que l'on rencontre. Et certains vont dire que tout le monde est bilingue. Alors, moi, je ne suis pas cela jusqu'au bout, mais je me rends compte de la difficulté que vous présentez maintenant, dans la mesure où l'on dit « mais il parle français ». Et donc, on se rend compte que dans ce français extrêmement pluriel et divers, eh bien, certains enfants ont une langue scolaire, enfin une langue scolaire très proche d'une langue familiale, et d'autres enfants ont une langue scolaire extrêmement éloignée d'une langue familiale. Alors, je vous le dis comme ça, je me pose la question de savoir, on verra tout à l'heure un certain nombre d'activités, si dans des activités plurielles, n'ayant pas un face-à-face uniquement entre deux Français qui s'opposent, mais en prenant ces Français dans d'autres langues et en voyant finalement un fonctionnement plus large, si l'élargissement ensuite que l'enfant va faire de sa langue familiale se fait obligatoirement contre la langue familiale. C'est un peu ça. C'est essayer de casser le face-à-face qui risque de ne pas apporter grand-chose sinon de la douleur. C'est un peu ça que j'essaye de rompre en vous donnant ça, mais avec des pincettes. Hein. Et c'est vrai que l'enfant qui parle cette variante-là à la maison parle, se fait comprendre, même dans son dans l'aspect restreint que vous pouvez voir. Et il y a une parole qu'on entend parfois qui dit « ça ne se dit pas », mais ça se dit, puisque cet enfant se fait comprendre dans son milieu. Donc, mais ça ne se dit pas là. C'est ça la différence entre « ça ne se dit pas » ou « ça ne se dit pas là ». Et c'est vrai que ce n'est pas un travail facile, du tout, du tout. Mais pour le moment, j'ai... Je poursuis. Alors, j'aimerais prendre maintenant avec vous cette deuxième partie qui concerne à la fois le répertoire langagier et les questions de biographie langagière. Depuis un certain nombre d'années, tout un courant de recherche s'est développé sur les biographies langagières. Alors, qu'est-ce que c'est que les biographies langagières ? Ce sont effectivement des biographies qui ont comme thématique principale eh bien, les questions qui concernent les langues. La personne qui fait sa biographie langagière eh bien, va parler, par exemple, de ses rencontres avec des langues, de ses apprentissages heureux, malheureux, de ce que ça lui a apporté ou des obstacles qu'il y a eu autour des langues qu'elle a pu apprendre. Les représentations qu'elle en a, et, par exemple. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, au niveau de l'intérêt, je dirais plus littéraire, moi, je vous renverrai, si ça vous intéresse de lire quelques biographies langagières, je vous conseillerais, par exemple, Vassilis Alexakis avec un Paris-Athènes magnifique. Nancy Houston, Nord perdu, ou vraiment magnifique, où on retrouve des questions que se posent justement... les bilingues dans la façon dont ils vivent ces langues. Et puis, un autre petit, très petit ouvrage d'Agota Christophe qui s'appelle « L'analphabétisme » et où elle raconte effectivement son rapport. Elle est hongroise, elle est arrivée en Suisse comme réfugiée en 1956, et en fait, elle raconte justement aussi son apprentissage de la langue avec ses enfants et ce qu'elle a ressenti aussi. Donc, les biographies langagières ont véritablement ceci d'important, qu'elles permettent à celui qui s'y met, eh bien, à se poser des questions sur son rapport aux langues. Comment, dans son parcours, il a vécu ces différentes questions. Alors, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup cela avec mes étudiants à l'Université de Genève, qui étaient pour la plupart des futurs enseignants. Et très souvent, ça a été pour eux un décrochage au sujet des langues, parce que... ils ne se sont pas retrouvés, toujours en tout cas, avec les mêmes représentations qu'ils avaient des langues après leur biographie qu'avant. Parce que les choses bougent quand vous faites une biographie langagière. Eh bien, il est effectivement... Enfin, c'est une réflexion sur vous-même, sur les autres. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, avec ces langues, vous vous trouvez toujours en prise avec d'autres personnes ou d'autres groupes. Et cela est vraiment important. Alors... Ce n'est pas tant de cela que je vais vous parler maintenant pour justement les adultes. Je vous parlerai plutôt de répertoire langagier. Mais à quoi est-ce que cela pourrait nous mener quand nous sommes dans les petites classes, par exemple, de l'école maternelle? Ou prenons encore, par exemple, le CP. En fait, c'est toutes ces questions qui se passent au sujet des langues autour du « je ». Et toutes les histoires aussi sur ces questions qu'on peut raconter ou lire aux enfants sur la question autour du « je ». Comment, finalement, pouvoir s'exprimer sur ces représentations, ce que l'on vit, ce que l'on sait. Alors, je ne parlerai pas de biographie langagière pour ces tout jeunes enfants. Je parlerai de fragments biographiques, des petits éléments qu'ils vont pouvoir nous donner. J'aimerais vous montrer deux exemples pour voir un peu avec vous l'intérêt que cela peut avoir. Je vais vous montrer un premier exemple avec des très jeunes enfants. Des très jeunes enfants à qui j'ai demandé il y a quelques années, mais je l'ai refait dernièrement, de dessiner des langues. En fait, c'était, j'allais à un colloque qui parlait des images des langues. Et je me suis dit que j'allais prendre cela au premier niveau et j'allais demander à des jeunes enfants de dessiner des langues. À travers ces dessins, on va savoir, quand même, en demandant ensuite aux enfants ce qu'ils ont mis sur leur dessin, eh bien, on va avoir une idée de la façon dont ils considèrent un certain nombre de langues. Alors, je vous montre cela comme ça. J'espère qu'on va voir quelque chose. C'est un peu clair en haut. Là, nous avons un enfant de 4 ans et demi, et voilà quelle était la consigne. J'avais pris des feuilles A4 que j'avais coupées en 6 carrés, il y avait 6 carrés, et les enfants ont une fascination pour le chinois. Depuis très jeune, le chinois les fascine. Et je leur avais demandé, dessine la langue chinoise. Et ensuite, dessine la langue arabe, parce que à ce moment-là, je n'avais aucune hypothèse sur la question. Et comme l'arabe s'écrivait avec un autre système graphique que le système latin, je me disais que c'était intéressant. Ensuite, le français, l'allemand, puisque c'est une langue qui fait sens chez nous. Ensuite, en bas, une langue que tu parles, puisque beaucoup d'enfants parlent de nombreuses langues. Et puis, la langue que tu voudrais apprendre. Et voilà comment Julia a... dessiner ces personnages, et puis voilà ce qu'elle en dit. La première, c'est une dame qui a des yeux chinois. Donc, elle a une connaissance des yeux bridés, en quelque part, des Chinois. Elle a une idée, non pas sur la langue, mais sur un signe distinctif des Chinois. Ensuite, la langue arabe. il est tout nu, il est très pauvre. Et en voilà une représentation généralisante, comme ça, qui lui a été sans doute transmise par sa famille, parce qu'elle a entendu, et c'est comme ça qu'elle le dessine. Ensuite, des habits allemands. Je ne sais pas, des habits allemands. C'est Christelle là, qui parle français. Donc là, le français lui dit quelque chose. Elle connaît quelqu'un, une fille, une copine, et elle sait qu'elle parle le français. Et puis ensuite, ici, c'est le portugais, parce qu'elle est portugaise et qu'elle parle le portugais. Et donc le portugais, dans la consigne, est-ce que tu connais une autre langue ? Portugais vient tout de suite. Et puis, la langue que tu veux apprendre, je veux apprendre le chinois. Donc, on voit qu'à 4 ans et demi, elle a quelques idées hein, sur les langues. Elle ne dessine plus la langue physique, parce que les tout-petits dessineraient la langue physique, mais elle a une certaine réflexion sur ces questions de langue. Maintenant, je ne vais pas vous en montrer beaucoup, mais surtout que je n'ai pris que les petits de maternelle, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir la progression en fait qui s'opère aussi et qui fait que à 7 ans, 8 ans, les enfants vont se mettre à écrire alors dans les différentes... ils vont s'essayer à différents systèmes graphiques. Je vais en prendre un autre. Voilà. Alors, lui, Thiago... Thiago a aussi 4 ans et demi, et il dit d'abord, c'est toutes des personnes qui parlent. C'est ça qui lui importe. Il y a une question de parole, c'est des personnes, il y a un aspect physique. Vous voyez, la parole, elle est vraiment, elle fait partie du physique, et c'est bien ce qu'on voit au début des apprentissages. Voilà ces différents dessins. Alors, il dit, vous voyez le premier tout de suite, hein, vous voyez l'indice, il a des baguettes. Donc, vous voyez comment se construisent très rapidement les signes, les stéréotypes qui vont participer de la mise en... de l'étiquetage qui va y avoir. L'arabe. Les habits sont différents. Les dames, elles ont des voiles. Et vous voyez qu'il y a un petit... Ici, Sarah fait de l'allemand. On parle le français en Suisse et en France. Donc, vous voyez ces différentes idées. Et puis là... Il ne parle pas de la langue qu'il parle lui, il dit c'est Christelle. C'était la fillette qui avait dessiné tout à l'heure. C'est Christelle, elle est portugaise. Et donc là, on voit qu'il y a de nouveau ce lien entre la langue et l'ami, la personne. Et puis alors là, c'est un peu elliptique. Il dit, je veux apprendre l'anglais pour montrer à mon père. Alors, est-ce que ça veut dire que son père parle l'anglais ? Je ne me souviens plus, etc. Mais là, il a un challenge par rapport à son père pour apprendre l'anglais. Alors, si vous voulez, c'est un premier élément. Je n'ai pas du tout analysé les dessins. Ça ne m'intéresse pas de faire une analyse des dessins, etc. C'est essayer de voir ce que ces enfants peuvent avoir en tête lorsqu'ils dessinent J'en ai d'autres qui sont complètement différents. Je ne vais pas... Vous voyez, par exemple, là, ça n'a rien à voir avec des personnages et des langues, mais en fait, Nina a 4 ans et demi à 5 ans. Elle parle espagnol chez elle. Et puis, alors, c'est la grande imagination. Le chinois, c'est une tente et un chemin pour y aller. Et puis, je vous donne simplement la dernière. Alors là, c'est aussi... Dans cette langue, on aime bien regarder les étoiles. On mange sur une feuille de banane. Et ici, la dernière, c'est la langue princesse que je veux apprendre quand je serai grande. Donc, on voit bien que des enfants, eh bien, sont, on pourrait dire, un peu hors sujet, hein, mais en fait, ils font marcher leur imagination autour de cela. Et il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs. J'ai pensé qu'il y en aurait plus qui feraient parler leur imagination de cette manière-là, mais il n'y en a pas vraiment eu beaucoup. Alors, on voit très bien, finalement, depuis les plus petits, les plus grands, d'abord, il y a des personnages qui parlent. Peu à peu, il y a des signes distinctifs qui peuvent être des signes physiques, comme les yeux bridés, ou bien des signes d'habillement, ou parfois des drapeaux. D'ailleurs, moi, ce n'est pas ce que je préfère. Mais, et puis ensuite, peu à peu, on va voir s'installer la langue écrite. D'abord, avec des petits gribouillages. Peut-être que j'en ai un encore. Le dernier. Voilà. Alors là, par exemple, vous voyez... Cet enfant sait que quand on parle de langue, pour lui, on parle d'écrit. Mais voilà, il... Ce qui montre, il y en a très peu hein, qui font ça très petit, qui ne passent pas, je dirais, peut-être que lui y a passé, mais qu'on ne l'a pas vu, mais justement par des indices culturels ou des indices physiques, etc. En fait, il y en a assez peu qui, très très petits, se lancent directement dans cette écriture, je ne sais pas si on peut l'appeler émergente, là. Alors, voilà... Je ne vous dis pas que c'est à faire comme ça à tout venant, mais c'est important de pouvoir trouver des moyens qui permettent aux enfants de s'exprimer déjà sur ce qu'ils peuvent penser des langues. Maintenant, je vais prendre quelque chose d'autre complètement différent. Je vais prendre une biographie langagière. Et cette biographie langagière est sortie d'une activité... qui s'appelle « Des langues de l'enfant aux langues du monde ». Et cette activité a été faite dans le cadre de notre projet européen EVLang, il y a déjà quelques années. Et je trouve assez intéressant de voir la façon dont cette petite fille, Chaska, va nous raconter son histoire. Bien sûr qu'il y a toute une mise en contexte d'abord, avant que Chaska nous donne son histoire, mais ça m'intéresse de vous la donner là. Et en fait, on donne aux enfants à partir du code des couleurs, on donne un code de couleurs qui est affichée au tableau aux enfants, elle colorie avec la bonne couleur les phrases de Chaska qui sont encadrées. Et cette histoire nous raconte donc Chaska. Bonjour, je m'appelle Chaska. Avec mes parents, je parle quechua. Et avec mes frères et sœurs ou à l'école, je parle aussi souvent espagnol. Quand je vais voir mon grand-père, il me parle en aymara. Je comprends cette langue, mais je lui réponds en quechua ou en espagnol. C'est le quechua et l'espagnol que j'apprends à lire et à écrire à l'école. Mais mon copain Sivar, lui, à l'école, il apprend à lire et écrire en aymara et en espagnol. au marché, j'ai entendu parler anglais, français, japonais par des gens en vacances, mais moi, je ne parle pas ces langues. Dans les rues, j'ai vu écrit de l'anglais sur des publicités. Alors, il y a bien des façons de s'intéresser à Shaska. On peut reprendre un certain nombre de ces questions avec les enfants. Quelle est la langue que l'on parle à l'école? Quelle est la langue qu'ils entendent? Quelles sont les langues que l'on peut aller voir dans le quartier? Est-ce qu'ils les connaissent? Donc, on peut faire tout un travail à ce sujet-là sans, en tout cas à l'âge de l'école maternelle, renvoyer forcément les enfants à une biographie langagière qui serait écrite. Mais reprendre un peu ces catégories, qu'est-ce qu'on entend parler pour que les enfants soient aussi un peu à l'écoute des langues qu'ils ont autour d'eux. Est-ce qu'on entend parler constamment français? Est-ce qu'on entend parler d'autres langues? Et ces langues, est-ce qu'on les connaît? Et puis, quand je me promène dans la rue, est-ce que je vois du français? Est-ce que je vois d'autres langues? Et vous voyez bien que là, on est exactement dans les prises d'indices de l'environnement, de façon à ce que l'environnement ne soit plus en cécité devant cet environnement, mais que cet environnement, on le découvre avec toute sa richesse. Et puis tout d'un coup, on va voir qu'il y a un magasin japonais où on vend des sushis, et puis ailleurs, eh bien, il y a un magasin vietnamien ou bien un restaurant arabe ou bien... Enfin, bref, nous sommes dans des environnements surtout urbains et pas seulement urbains où on voit que nous vivons dans une diversité et cette diversité est intéressante pour les enfants de la découvrir. Et puis, ce que j'aimerais... vraiment voir avec vous, c'est la suite. Non pas pour qu'on... Vous voyez qu'ensuite, on demande à un enfant de le faire quand on est en CM1 ou CM2, peut-être. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous rendre attentif au fait qu'on en a parlé ce matin, d'ailleurs. C'est la question du détour. Si vous voulez... À quel propos est-ce que Madame Christine, je ne sais plus son nom de famille, Passorio, a parlé justement de la décentration et de la distance qui fait que nous ne sommes pas pris complètement par l'affectif dans une situation. Et il est bien entendu que si je suis dans un entretien avec des enfants ou si je discute avec des enfants, immédiatement sur leur propre parcours. Très souvent, tout ce qui est de la langue a un impact extrêmement affectif. Je pense que vous l'avez tous remarqué un jour ou l'autre. C'est quand même une part identitaire, cette langue, quand ça ne l'est pas de façon même plus large. Donc, si vous voulez, ici, Shaska nous permet de discuter, en fait, sans être pris dans l'affectif individuel que l'on pourrait avoir. Et c'est une fois que cette question-là a été discutée avec distance et décentration qu'on peut se rapprocher de la question et puis soi-même entrer dans la discussion en ayant plus de distance et en étant beaucoup moins dans l'aspect complètement affectif. Et c'est là, et c'est pourquoi, après avoir, je dirais, travaillé sur la biographie langagière de Shaska, eh bien, on peut s'essayer à raconter la sienne. Et là, on est dans un aspect extrêmement aussi important. Lorsqu'on parle des langues, lorsqu'on parle des langues avec les enfants, lorsqu'on fait on a des activités particulières, pensez à ce rôle en même temps de décentration et d'investissement. C'est une autre façon de faire, c'est-à-dire c'est présenter aux enfants des pétales de couleurs différentes, qu'ils puissent se faire des fleurs où ils vont mettre les langues qu'ils connaissent, par exemple, et ensuite la classe devient un bouquet de ces différentes fleurs dont la diversité parfois peut être assez grande. Est-ce que sur ce sujet-là, vous, quelqu'un voudrait intervenir ? Alors, je prends un aspect qui est dans le même cadre, je dirais, mais qui est le répertoire langagier. Alors, nous allons rester un peu dans le biographique, mais d'une autre manière. Et j'aimerais vous présenter, et puis après on fera une petite pause, j'aimerais vous présenter le répertoire langagier. Qu'est-ce que c'est ? Je vous en mets une définition ici. Le répertoire langagier, c'est un chercheur américain, Gumpertz, qui nous propose cela, et je vous le mettrai en schéma tout à l'heure. En fait, le répertoire langagier, c'est l'ensemble des ressources linguistiques dont dispose une personne pour interagir en situation de communication. Ce répertoire est donc composé de toutes les langues connues de la personne, qu'il s'agisse de langues apprises à l'école, de langues familiales ou d'autres langues, et quelle que soit la diversité des connaissances à l'oral et à l'écrit, en compréhension et en production. Ce répertoire langagier, il a ceci de particulièrement intéressant, c'est, si vous voulez, qu'il nous propose, de façon virtuelle ou représentative, de réunir tous les aspects linguistiques, langagiers que nous pouvons connaître. Je vous l'ai fait comme cela, mais on pourrait le faire autrement. Voilà. Ce répertoire langagier, il est un peu eudbié. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Alors, ce répertoire langagier, si vous voulez, c'est en fait, à un moment donné, un arrêt sur image sur les langues que l'on peut connaître et sur, en fait, les ressources langagières que nous pouvons avoir. Et là, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il se développe tout au long de la vie, donc il est constamment en mouvement, en transformation, et puis, en même temps, eh bien, il permet d'intégrer dans ce répertoire les langues connues, mais à différents niveaux. Ces langues, on peut les comprendre à l'oral. On peut la comprendre à l'oral, mais ne pas pouvoir le lire ou ne pas pouvoir l'écrire. Donc, les modalités même de ces langues, les modalités vont être différentes pour les différentes langues que l'on peut connaître. Et si vous voulez, c'est un peu là une des clés aussi du plurilinguisme. C'est le fait que toutes les langues, les différentes langues que l'on peut connaître, on ne les connaît pas toutes de la même manière. On n'a pas les ressources dans toutes les langues de la même manière. Parce que, soit on n'en a pas eu besoin, soit on n'a pas eu l'occasion de développer dans les différentes modalités, soit on va encore les développer plus tard, mais on ne les a pas encore développés. Donc, on voit là un schéma, un concept qui nous permet d'être très intégrateur des ressources linguistiques diverses que le locuteur peut connaître. Et puis, ce répertoire langagier, eh bien, il est intéressant aussi à faire pour les adultes qui peuvent se poser pas mal de questions sur leurs propres ressources langagières, lesquelles elles sont, et qui peuvent effectivement faire à un moment donné, et peut-être plus tard, parce que ça sera un peu différent, peuvent se faire un arrêt sur image des langues qui font partie de leur répertoire langagier. C'est un peu le condensé, on dirait, sans la narration, d'un récit autour du langage, enfin des langues que l'on peut connaître.